En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les biographies médicales, c'était le thème de la journée du livre en 2006 à l'Académie nationale de médecine. Pour faire découvrir la dizaine d'ouvrages, l'Académie a eu une idée originale, faire venir l'auteur et se laisser malmener en quelque sorte par son interlocuteur. On assistait ainsi à une interview en direct, le tout orchestré par le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, Jacques-Louis Binet, que vous pouvez d'ailleurs désormais entendre régulièrement sur notre antenne. Pour l'heure, nous vous proposons d'écouter deux grands noms de l'Académie française, Yves Pouliquen, auteur de Madame de Sévigné et la médecine du grand siècle, et son confrère et ami Angelo Rinaldi, critique littéraire bien connu pour ses remarques percutantes. Alors laissons tout de suite la place aux deux grands orateurs qui parlent avec hardiesse des angoisses de ces dames de l'aristocratie au XVIIIe siècle, la peur absolue de tomber enceinte.
Je voulais vous apporter des nouvelles de la marquise de Sévigné ce matin, mais je me suis aperçu qu'elle a disparu. J'entends par là qu'il y avait dans mon quartier, le 3e arrondissement, une boutique de confiserie qui s'appelait, à l'ancienne, la marquise de Sévigné, comme elle en existe encore en province. Mais la propriétaire a déposé le bilan en raison, je crois, des travaux de l'actuelle municipalité de Paris qui a détourné beaucoup de gens. Et quand je l'avais interrogée sur son enseigne, elle m'avait répondu, oui, c'était quelqu'un qui écrivait. Je ne suis pas très sûr qu'elle n'ait pas confondu avec Georges Sand, hein, parce qu'il me semble qu'elle parlait de la petite fadette. Je n'ai pas insisté parce qu'il est d'usage de respecter à la fois le savoir, le vôtre, et l'ignorance, la sienne. Mais quand même, la marquise de Sévigné était encore il y a 6 mois dans le 3e arrondissement. Ce qui n'est pas si mal et qui, au fond, aurait beaucoup étonné une femme qui ne s'attendait pas à être célèbre et qui ne voulait pas du tout écrire, enfin. Mais d'abord, je voudrais dire l'effroi qui s'empare un lecteur comme moi qui voit les médecins avec beaucoup d'appréhension. Et si j'avais pu faire... J'étais victime de l'interruption de chronique. Si j'avais pu faire une chronique sur le livre d'Yves qui m'a passionné, parce que ce sujet nous est familier depuis longtemps, j'aurais commencé par le mot de Cioran, devant le tableau dévastateur qu'il dresse, le mot de Cioran qu'il dit, nous dit, et que vous connaissez sans doute, « Imaginez le cri du monde avant l'invention du chloroforme ». Je veux dire que je suis sorti anéanti par la home, s'est communiqué à moi la panique qu'avaient les patients devant les charlataneries qu'on leur proposait, et dont Yves Pouliquen dit qu'ils fassent n'importe quoi, mais pourvu que ça n'ait pas d'effet. Effectivement, je dois dire que deux fléaux à l'époque menacent l'individu, c'est à la fois la maladie et le médecin. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Tout le tableau satirique qu'inspire en général aux écrivains, à Molière, je ne vous rappellerai pas Molière, c'est évident, le médecin qui est à la fois porteur de tous les espoirs, et aussi un aimable bourreau bénévole. Alors, nous entrons, votre métier n'a pas été très bien vu en littérature, je crois en gros jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à ce que quelqu'un libère ce qu'on appelait à la fois les fous, et il faut arriver à Balzac pour que l'image médicale littérairement se restaure. Vous vous rappelez que Balzac croit tellement au médecin qu'il a inventé qu'il l'appelle à son secours, à son chevet, il faut appeler Bianchon. Et bien sûr, Bianchon est d'entre les pages et on ne sort pas d'entre les pages. Il faut en arriver au docteur Pascal Docteur Pascal de Zola, pour que cette image, cette réputation se restaure au fur et à mesure des découvertes. Mais sur ce chapitre, vous êtes plus fort que moi. Je m'en tiens au spectacle navré des diverses maladies que Yves Poulquin décrit et qui d'ailleurs nous apporte une grande révélation, parce qu'enfin nous savons de quoi Madame se meurt, de quoi Madame est morte. Je ne le savais pas avant. Et en familier, un peu familier, moins que toi, du XVIIe, je me suis toujours demandé de quoi meurt Henriette d'Angleterre, de quoi meurt un tel, de quoi meurt la Bruyère, de quoi... Rien, parce que même les auteurs très pénétrants comme Saint-Simon, ils n'ont pas de raison d'avoir plus de vocabulaire que les médecins eux-mêmes. Et là, j'ai donc trouvé dans ton livre un tableau parfait. Je sais donc pourquoi Bossuet s'exclame. Et différentes choses qui continuent quand même de me hanter, parce que je me dis qu'il en aurait fallu au fond pas beaucoup pour sauver Molière. Molière qui vous poursuivra à travers les siècles de sa rancune. J'aurais donc dit citer le mot de Suran, mais j'aurais cité, si j'avais à faire un article, bis, j'aurais aussi balancé avec le mot de Valérie. C'est quand Valérie se demande que reste-t-il de la littérature quand on retire la vanité. C'est pas très gentil pour les gens qui publient des livres, je ne peux pas le dire, le nier. Mais à cet égard, Madame de Sévigné est complètement, si j'ose dire, vierge, parce qu'elle ne sait pas du tout qu'elle va écrire. Paradoxalement, son premier lecteur, c'est Louis XIV. Pourquoi ? Parce que Madame de Sévigné est très fidèle à Fouquet, et tu le soulignes très bien, et qu'on saisit tout d'un coup le surintendant qui est trop beau et trop riche pour un roi trop impétueux et trop jaloux. Là, je cite Saint-Simon, et on prend sa cassette, quoi. Les brigadiers de Vincennes ou l'équivalent, quoi, fouille, et on trouve les lettres de Madame de Sévigné que Louis XIV lit et trouve tout à fait charmante, et qui lui donne une idée de son talent qui demeure ignoré, parce que Saint-Simon, quand elle meurt, 1696. Oui, 1696. Et que 20 ans plus tard, il écrit, il dit à peu près, cette année-là, Madame de Sévigné, si aimable et de si excellente compagnie, mourut à Grignan chez sa fille qui était son idole et qui le méritait médiocrement. Donc, je veux dire, c'est une femme qui a une réputation de causeuse, qui est très brillante. Elle dit même qu'elle est remarquable par son aisance, sa conversation, et qu'elle en donne à ceux qui n'en avaient pas. Ce qui est quand même, je dirais, le début de la conversation française entamée par les précieuses à l'hôtel de Rambouillet, dont elle porte la marque, et qu'a terminé de nos jours, je crois, il y a 35 ans, Louise de Villemorin. Je veux dire, c'est une pointe de l'esprit français, une forme de la conversation conçue comme un substitut de l'œuvre, et en tout cas, tout entier tourné vers l'agrément des autres. Je ne connais plus beaucoup de gens qui me semblent capables d'un exploit pareil, en tout cas, d'un exploit qui arrive au public. Bon. Qu'il y a des brillants causeurs, nous le savons, mais qui s'adosse à une œuvre, moins. Donc, je reviens à Valérie pour dire que Madame de Sévigné, et tu le montres très bien, écrit en toute liberté, qu'elle a conscience, elle n'a pas du tout conscience d'être lue par d'autres personnes que la destinataire, qui est sa fille, qu'elle aime exagérément, eu égard à sa médiocrité que Saint-Simon relève. Et Donc, elle a un naturel moins grand que chez la princesse palatine, qui est plus corsée, et qui est une femme intelligente, et qui interroge Leibniz par le biais de ses correspondants. Madame de Sévigné, c'est en somme un reporter, le procès de Fouquet, que l'on voit arriver dans le carrosse, précédé par D'Artagnan, le procès de la Brinvilliers. Elle respire dans l'air les cendres de l'empoisonneuse. Elle est sensible à la Bretagne, elle est sensible au coucher de soleil, à la marjolaine, au thym. C'est un très brillant reporter. Notez que quand elle va en Bretagne et qu'elle voit dans les chaînes des paysans pendus par son ami le duc de Chaulm, parce que c'est la misère, elle trouve que les champs, les pendus et les glaines, ça revient à la même chose. Enfin, on peut pas demander à la marquise ce qu'on peut demander à la palatine, c'est de penser ni con de penser contre sa classe. Elle n'a pas la distance que, très curieusement, peut-être parce qu'elle est mariée à un homosexuel notoire, monsieur, que paradoxalement, la palatine peut avoir. La marquise pense comme il faut, elle est un reporter, elle a le regard d'une femme de sa condition sur à peu près tout, sur les livres qui sortent, sur les pièces qu'elle voit. Elle rate deux ou trois premières de Racine, mais c'est pas grave, parce qu'elle attend la poste. Voilà, donc c'est ce naturel qui nous la rend encore aimable, comme elle rend aimable la palatine. Ajoutons ceci que... Si Madame de Sévigné a jusqu'à l'écœurement été citée par les manuels de classe, il n'en est pas de même de la grosse Allemande, qui est devenue un très bon écrivain, français. Voilà, dans la galerie pittoresque des charlatans qui défile comme dans un roman, parce qu'il y a une texture romanesque dans cette biographie, il y a un médecin qui arrive à 91 ans avec un régime à base de salade et de vin de champagne exclusivement. Je ne sais pas si je vais appliquer la recette, mais c'est une époque où la seule garantie pour les médecins, c'est d'être très vieux. Alors s'ils deviennent très âgés, ils inspirent à eux confiance. Je voulais dire aussi que la liberté de Madame de Sévigné devant les problèmes sexuels, c'est-à-dire qu'elle parle de perte de sang, de ses coliques avec beaucoup de naturel, et qu'elle m'a fait penser souvent, tel que tu l'analyses en tout cas, à l'attitude d'Edda Gabler, l'héroïne d'Ibsen, et qui est toute de méfiance à l'égard d'une féminité qui connaîtrait le plaisir. Enfin, pour elle, Dieu merci, le mari est mort, elle est délivrée de la corvée, et c'est une belle femme, et sa chasteté est une réponse provocante aux hommes et une affirmation, comme tu le dis si bien, de sa propre liberté. J'ajouterai une remarque. Quant au style, on ne fréquente pas impunément le XVIIe siècle, dont George Arthur Goldsmith, qui est, vous savez, le traducteur d'Anke et de tous les auteurs allemands contemporains, et qui est bilingue, me disait, vous vous rendez pas compte, le français, c'est du XVIIe siècle, on est au-dessus de l'abîme sur une plaque de verre. Alors, c'est un siècle qu'on ne fréquente pas impunément à travers Ray, un ami, le cardinal, dont on connaît toutes les blénorragies et le nom des neuf maîtresses. On fréquente pas ce siècle sans en être un peu contaminé. Et j'ai relevé une phrase que je pourrais, chère Yves, attribuer à La Rochefoucauld. La mort dans sa fatalité, tu parles de notre époque, la mort dans sa fatalité est reportée en ses limites lointaines qu'il est permis de confondre avec une histoire à laquelle nous n'appartenons pas encore. Voilà.
Le but de ce livre n'était pas d'être original en la matière, puisque la marquise a donné lieu à de nombreuses, un lot immense de publications, et je ne suis pas le premier à avoir remarqué en lisant très attentivement ses lettres que la médecine et la pharmacie étaient l'une de ses préoccupations.
La pharmacie inventée par les jésuites.
Oui, par les jésuites. La poudre des jésuites. Ce qui m'est apparu, l'histoire de mes rapports avec Madame de Sévigné, d'abord c'est un goût du XVIIe siècle, ça c'est certain, car il n'est pas question que d'elle dans mon livre, mais essentiellement d'elle, c'est que j'ai relu avec un immense plaisir ses lettres et je les ai lues comme je fais souvent en prenant des notes et en étayant, en structurant ma lecture. Et j'ai constaté bien sûr que, comme les autres, comme tous ceux qui m'avaient précédé, que la médecine était présente à tout moment. Plus de 400 des lettres sont pratiquement et exclusivement consacrées à la médecine et aux thérapeutiques et surtout aux craintes de la maladie. Et à partir de cette lecture, je suis revenu à ceux qui ont parlé de Madame de Sévigné, qui ont écrit son histoire, et Roger Duchesne, feu Roger Duchesne, qui nous a quittés il y a quelques mois, et auquel j'ai envoyé mon livre, qui n'a même pas pu lire, puisque je crois qu'il est mort 3 jours après. Roger Duchesne.
On ne doit pas la vérité aux vivants, mais aux morts. Je dirais que Roger Duchesne est un éminent spécialiste, mais que c'est un grand universitaire, mais qu'il a moins d'université de style que toi. Et là-dessus, je me tais.
Bien, merci. Mais en tout cas, quand j'ai relu Roger Duchesne et ses élèves, je me suis aperçu que les descriptions qu'on faisait de la marquise étaient assez schématiques et qu'elle rapportait les événements, mais pas au travers de l'expérience et des yeux d'un médecin. Et je crois avoir réhabilité un petit peu la marquise qui apparaît chez tous ces biographes comme quelqu'un d'absolument horrible, une mère abusive qui ne cesse de harceler sa fille. Or, c'est qu'on n'a jamais, et je m'étonne que des gens comme Duchesne, qui ont vécu dans le 17e en permanence, n'aient pas imaginé ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le drame qu'était de vivre alors. Un drame qui s'appuyait essentiellement sur la providence, sur le pouvoir de Dieu, sur ce que Dieu décidait. Mais dès l'instant où on était confronté au jour le jour avec la vie, mais c'était une vie épouvantable. Et tu l'as parfaitement souligné tout à l'heure. Et cette angoisse, car finalement, la marquise avait une névrose d'angoisse, qu'elle a d'ailleurs traitée elle-même grâce à la mort de son mari, puisque elle était absolument obsédée par la grossesse. Oui. Car pour les femmes de l'époque, être enceinte 8 fois, c'était quasiment mourir. D'où, je dirais, entre guillemets, l'avantage des époux d'avoir 4 ou 5 femmes, puisqu'ils en épousaient une neuve à chaque fois. Et d'ailleurs, Monsieur de Grignan avait déjà tué 2 femmes. Sous lui, oserais-je dire, et quand il a épousé Françoise, la fille de Madame de Sévigné, Madame de Sévigné qui voulait quand même caser sa fille qui tardait à se marier, elle avait 18 ans, 19 ans, mais c'était un peu tard, a été horrifiée de se dire « cet homme va lui faire des enfants ».
Et l'une des... Plus âgée, hein.
Ah, beaucoup plus âgé, il avait 25 ou 30 ans de plus qu'elle. Il était pas beau en plus. Effectivement, il lui a fait 6 enfants. Et Madame de Sévigné a été obsédée tout au long de sa vie par le fait qu'elle allait coucher avec son mari quand il allait la rejoindre rue Carnavalet, à l'hôtel Carnavalet. Elle essayait de tout faire. Et quand elle lui demande si elle est malade dans ses lettres, ça veut dire « as-tu tes règles ?» Car si elle est malade, c'est bon. Si elle n'est pas malade, c'est mauvais. Il faut décrypter son langage. Et autour de cela, c'est vrai que Françoise était probablement une fille médiocre par la lionne, la divine, celle que Bussy-Rabutin aurait bien mise dans son lit, d'ailleurs, comme sa mère. Et grâce auxquelles, d'ailleurs, on connaît les lettres, essentiellement. Hein. Je dirais que la connaissance de la littérature de Madame de Sévigné dans le siècle a été le fait de Bussy-Rabutin.
Favorisé par la vanité d'un académicien qui publie ses propres lettres et qui inclut celles de sa cousine. Voilà. Voilà à quoi nous devons entrer.
Et donc, Françoise était une fille assez médiocre. Et probablement, amoureuse de son mari, ce qui était pour la marquise quelque chose d'insensé. Parce que si elle était amoureuse, elle allait coucher avec lui, si elle allait coucher avec lui, elle aurait des enfants. Donc je crois que toute une analyse des lettres, ce qui a été interprété comme une tyrannie, n'était en fait qu'une immense inquiétude. Et il y a des scènes absolument merveilleuses que décrit la marquise, c'est quand elle quitte sa fille à Paris, et je ne sais si je ne citerai pas de mémoire le texte, mais elle dit « Au travers de la fenêtre du carrosse, je vois encore une dernière fois son visage, elle va s'estomper, le carrosse tourne la roue, je vois encore sa main, etc. »
Et tu dis qu'ensuite elle faudra mettre un paravent
pour ne pas voir. C'est magnifique. Et on imagine la douleur qu'avait la marquise de qui c'est une fille qui partait à 500 kilomètres et dont elle n'aurait des nouvelles qu'au minimum 8 jours après et dont régulièrement elle n'aurait des nouvelles que semaine après semaine. Elle apprenait après coup qu'elle avait été en danger, qu'elle toussait, qu'elle était malade. On craignait une tuberculose qui n'avait pas encore son nom et qui est probablement a été une réalité chez Françoise et tous les maux que la vie comportait au jour le jour. Et là, j'ai essayé de réhabiliter un tout petit peu la marquise qui, certes, reste envahissante. C'était une mère terrible. Mais j'espère avoir atténué cette sanction qu'on avait contre cette mère qui, finalement, apparaissait presque indigne.
Nous avons entendu parler brillamment tout à l'heure de Charcot et de la psychanalyse à travers le roman du professeur Debray. Je voudrais dire aussi que il ne faudrait pas être victime de la psychanalyse de comptoir que nous avons tous tendance à faire quelquefois, et que quand la marquise dit « je baisse votre belle gorge », et a l'air de se livrer au moins par lettre sur sa fille à des attouchements, c'est une façon de parler de l'époque. Hein. Donc il ne faut pas, et tu ne l'as pas fait, et tu nous mets en garde, il ne faut pas entraîner la marquise du côté de l'inceste, au bénéfice de nos connaissances d'aujourd'hui, ou que nous croyons telles
oui,
comme les profanes.
Elle avait un côté libertin, mais ce qui est curieux, c'est le paradoxe.
Elle ne couchait pas, mais elle trouvait ça amusant que les autres le fassent,
et
avec les risques
fils,
que cela comportait.
Et vis-à-vis de son fils, écoute, la complicité qu'elle a avec son fils quand il a une chaude pisse ou peut-être une vérole, enfin, on s'interroge.
Je crois, on parlait tout à l'heure avec un tel confrère, je crois qu'il... Il est lui aussi dans... Monsieur le professeur,
Didier Vincent
me disait qu'elle avait encore une forme aimable.
Toutes ces aventures, enfin c'est les orgies auxquelles il participait, car cet homme, ce fils digne de son père, aussi beau que son père d'ailleurs, je signale que de temps en temps les Bretons sont beaux, le fils de son père... qui a retrouvé la Ninon de l'Enclos, qui avait été la maîtresse de son père 20 ans plus tôt. Et ça amusait finalement beaucoup la marquise, car elle ne fut pas jalouse de Ninon de l'Enclos. Elle se disait, au moins, quand il couche avec les autres, il ne couche pas avec moi, il ne me fait pas d'enfant. Et il y a un miracle dans sa vie, c'est qu'elle n'a eu en 7 ans que 2 enfants. Ce qui était à l'époque absolument extraordinaire. Est-ce que tu as été choqué par je sais que Jacques-Louis a été choqué par ma réduction, enfin, de Molière, par mon... J'ai tout relu sur Molière et de Molière, et je trouve que Molière était quand même un peu méchant. Il est génial, mais un peu méchant. Et avec les médecins en particulier, car finalement, les médecins, ils avaient autant que les charlatans, et les charlatans autant que les médecins, ils avaient au moins la compassion, et quelquefois les charlatans plus que les médecins.
Ce que tu as appelé l'incohérence de pensée et d'action, si je me souviens bien. Oui, non, je trouve pas. Mais étant du côté des victimes, je suis plutôt du côté de Molière. Mais je crois que c'était fatal, c'était inévitable. Ce n'est même pas la figure du médecin qui est caricaturée. C'est l'angoisse que tout le monde ressentait.
Oui, moi je trouve que non, tu l'as un peu diminué. Molière, ça quand même, ça nous interpelle pour utiliser un mot qui veut plus rien dire. Il meurt d'hémoptysie en jouant le malade imaginaire. C'est exceptionnel. Il est en train de critiquer les médecins, il crache du sang sur un fauteuil qui est toujours à la Comédie-Française. Alors écoutez, là, les médecins, on est bien gentils, mais est-ce qu'on ne continue pas à parler latin ? Et d'autre part, il était très lié au corps médical. Un de ses grands amis était médecin. Non, non, c'est un monde qu'il connaissait très très bien. Et il meurt, j'ose pas dire, en nous provoquant, en constatant la nullité de ses copains médecins.
Et il était locataire de Patin qui possédait tout son quartier. Alors, est-ce qu'il en voulait à Patin? Est-ce que Patin lui
non,
faisait des loyers
trop élevés?
Non,
il avait un autre ami dont j'ai oublié le nom, qui était un médecin, un grand ami. Autrement dit, il était très lié au corps médical, et je trouve que alors là, tu dis, les médecins étaient nuls. Bon, puis voilà. Bon, mais quand il les attaque, alors qu'il va en mourir. Non, c'est quand même superbe.
Non, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il ne fait que transposer ce que Patin disait des médecins autour de Mazarin. Et finalement, il a simplement donné un nom différent, comme si parmi quatre d'entre nous, on était dénommés sous un autre nom drôle, et qu'on critique les actes mêmes que nous aurions fait auprès d'un grand de ce monde. Hein, imaginez que le président de la République, quatre autres d'entre nous soient conviés, qu'on démasque nos noms, on en fait une comédie, on tue le président de la République, c'est formidable.
Je voudrais borner mon intervention à cette remarque et réflexion. Qu'est-ce que l'eau de mélancolie, qui est presque un titre de roman?
Ah, ça c'est magnifique, l'eau de mélancolie. Mais d'abord, il y avait les vapeurs. Je parle devant les psychiatres. Les vapeurs, paraît-il, c'était la mélancolie. Alors il fallait bien une eau pour traiter la mélancolie. Je pense que ça devait être aussi courant que maintenant, la mélancolie, sinon plus.
Ah, c'est un sentiment qui pense.
Oui, exactement. On en fait des expositions, donc ça devait déjà exister. Du moins, on nous l'a démontré. Et l'eau de mélancolie, c'était une eau de perlimpinpin, mais qui s'appelait eau de mélancolie. Hein, comme l'eau de Hongrie, comme toutes les... Je pense que tous nos pharmaciens ici auraient des réponses beaucoup plus précises sur ce thème.
Autre point important... La force et la faiblesse de la Providence. Sur le plan médical, la Providence, c'est une horreur. On est dépendant, totalement dépendant. Non, mais il faut voir la force que ça leur donnait. Et par exemple, par opposition aux prognoses hippocratiques, c'est un retour en arrière. Hippocrate essayait de prévoir en fonction de multiples facteurs qui ne dominaient pas, le temps, les vents, la couleur des urines, la gueule du malade, enfin une série de facteurs qui ne dominaient pas très bien, mais ça se terminait par un prognose. Là, on ne sait pas, on attend, on prie Dieu, et c'est assez. À la fois, je trouve que sur le plan intellectuel, pour les médecins, c'est une catastrophe, parce qu'ils n'ont pas à chercher, et par contre, sur le plan moral, ça donne aux patients, et en particulier à la marquise, beaucoup de force. La fin, je trouve que les dernières lettres sont superbes. Saint-Thouet, alors je vais vous choquer, c'est du faux Bossuet, mais c'est quand même très beau.
Non, c'est beau. Non, non, mais
elle se retient, elle est malheureuse,
c'est
elle
s'ennuie, hein.
Elle
c'est
va pas
janséniste,
bien.
C'est une janséniste, en réalité.
Alors, critiquez-moi là-dessus.
Oui, je voulais vous le dire, monsieur le professeur, c'est que je crois qu'il y a des formes de foi et d'espérance qui ne résistent pas à une rage de dents, surtout quand on n'a rien pour les soigner.
Sauf chez Pascal.
Oui, lui,
sauf chez Pascal, lui qui, au contraire, plus il souffrait, plus il était fort en maths.
Oui, mais il y a eu que Pascal.
C'est pas tout à fait vrai pour elle, parce qu'elle a mal. Elle a des rhumatismes qui la font souffrir.
Oui,
dans ses lettres, la douleur traîne un peu. La douleur n'est pas absente.
Oui, et encore, elle la masque. Elle devait souffrir beaucoup plus que ce qu'elle avouait à sa fille.
Ça, c'est la providence.
Oui.
Non, la force de la providence. Non, donc je trouve que pour le malade, alors c'est vrai que l'horrible rage dedans, mais l'horrible rage dedans, elle datait du 17e. C'est la même chose pour Louis XIV. Écoutez, quand on a un président de la République vaguement fatigué, toute la presse s'en mêle. On en fait des films. On en fait des... Là, Louis XIV. Qu'est-ce qui a dit avant 15 ans que Louis XIV, presque toute sa vie, a été malade?
Ben oui, non mais...
C'est formidable.
Non mais d'ailleurs, ça
et
peut...
Et le courage qu'il a eu, parce que la royauté, Dieu, c'était lui, le roi soleil, toutes les maladies et tout ça, ça
non,
a sauté.
Je dirais que c'est presque un argument en faveur des médecins, parce qu'il a été constamment malade. Les médecins lui ont administré des horreurs pendant toute leur vie, et il a résisté jusqu'à 77 ans. Donc, Non, il a eu beaucoup de choses, beaucoup d'ennuis, des ennuis dentaires, des ennuis, enfin la fistule, il avait plus de palais, il avait de la fièvre tout le temps, il avait le paludisme tous les 15 jours, il était tout le temps malade.
Oui, il a quand même bénéficié du début de la chirurgie. C'était bien la seule chose qui était positive. Absolument. À cette époque, puisque la médecine se contentait de constater, précédemment de prévoir, mais à ce moment-là de s'en remettre à la Providence, et que la médecine n'avait absolument aucune ambition, autrement aucune capacité thérapeutique. Et le début de la médecine curative à cette époque a été la chirurgie, à la fois par les premières interventions sur les blessures, les flèches, etc., et sur la pathologie. C'est véritablement la fistule du roi qui marque l'étape, puisqu'il a reçu là un traitement qui l'a guéri. Il s'est d'ailleurs particulièrement intéressé à ce moment-là à la chirurgie dans le royaume, et ça a été tout le début de l'histoire de la chirurgie que nous connaissons bien à l'Académie de chirurgie, qui le lui doit, et ici même. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est que le roi a été malade de toutes ces maladies de l'époque, dont beaucoup n'étaient pas mortelles, surtout quand on était un peu, malgré tout, protégé des éléments extérieurs. D'ailleurs, qu'il n'avait pas de blessures, ou on l'a dit, la pathologie féminine, qui elle était absolument insurmontable, et c'est véritablement l'époque où la médecine a commencé à démontrer qu'elle pouvait être curative, mais non pas la médecine, mais sa forme chirurgicale qui était jusqu'alors par l'Église et les médecins laissée aux barbiers, et c'était les seuls qui avaient une efficacité. Encore qu'ils se défendent à l'époque de devoir procéder constamment aux saignées dont ils savaient que ça ne servait à rien.
Pour revenir sur la Providence, tu as raison d'insister sur la beauté des lettres, des lettres dernières. Car on sent que cette première partie de sa vie d'angoisse, tout à coup, après son grand rhumatisme, après son ulcère, après la ménopause, qu'elle a 60 ans, à ce moment-là, elle devient sage. Et les lettres, le ton des lettres, change. Les conseils qu'elle donne à ses cousins, etc., c'est absolument magnifique. Et bon, je sais pas, moi je suis un fanat de la marquise. Je crois qu'on peut relire la marquise comme on lit Saint-Simon, comme en permanence, avec dans chaque lettre une leçon.
C'est un bon reporter, je l'ai dit. On n'avait pas besoin de moi pour s'en apercevoir. C'est un bon témoin de son temps. C'est une femme qui garde toute sa vivacité jusqu'au bout, jusqu'à cette sagesse que tu évoques, qui, de toute manière, lui viendra même à son lit de mort, enfin, qu'elle accueille sans la soupçonner. Oui, je crois qu'elle mérite d'avoir une autre réputation que celle de espèce de dame tartine de la littérature. C'est un écrivain qui a de la respiration, et c'est la plus belle des correspondants, enfin une des plus belles. Je mettrai celle de Madame du Deffand, l'ennuyée très amusante, qui d'ailleurs accueille avec bonheur à la fin du 18e une des premières éditions des Lettres de la Marquise. Je penserai peut-être aussi à la correspondance de Berlioz, mais si elle n'avait pas servi de base à ses mémoires. Et j'écarterai résolument celle de Voltaire, parce que Voltaire, à partir d'un certain moment, il fait ses éditoriaux à Ferney. Il sait très bien que tout cela sera recopié, retranscrit, etc. Donc, on ne peut pas considérer comme un genre littéraire un éditorial du Monde ou de quelque autre journal. Enfin, c'est sa puissance qui est en cause. Donc, il s'écarte de beaucoup.
Vous venez d'entendre deux grands noms de l'Académie française, Yves Pouliquen, grand ophtalmologue, qui défendait son approche médicale de la lecture des lettres de Madame de Sévigné, face à son confrère critique littéraire Angelo Rinaldi. Cette première approche a aiguisé votre curiosité et vous souhaitez en savoir plus sur la médecine au temps de la Marquise. Voici les références de l'ouvrage « Madame de Sévigné et la médecine du grand siècle » est paru en avril 2006 aux éditions Odile Jacob. Cette entrevue avait lieu lors de la journée du livre à l'Académie nationale de médecine en septembre 2006 et avait pour thème les biographies médicales. Retrouvez dans notre médiathèque sur Canal Académie l'émission Au fil des pages qui résume la dizaine de livres présentés lors de cette journée. Vous écouterez défiler les destins passionnants de Rousseau, Freud, Ravel, Bartok ou encore Joé Bousquet en moins d'une heure. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie et à bientôt.